possibilité avec un joli couteau qui venait de lui trancher la tête, n'est-ce pas? Notre vieille nature a été crucifiée. Mais elle est comme le poulet, n'est-ce pas? Ça continue encore. Il y a encore des soubresauts ici et là, voyez-vous. Et c'est pour cela qu'il est dit dans les Écritures, Romains 8, 7, les tendances de la chair sont ennemies de Dieu. Galates 4, 29, il est question du conflit entre Ismaël, le fils de l'effort propre, et Isaac, le fils de l'esprit, le fils de la promesse, le fils de la grâce. Ou encore Galates 5, 17, la chair a des désirs contraires à l'esprit, l'esprit en a de contraires à la chair, ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Je bénis Dieu de nous avoir donné l'Ancien Testament, tellement négligé. Parce que voyez-vous, dans cette histoire qui oppose le jeune David au roi en place, Saül, nous avons là, en geste en quelque sorte, ce message du Nouveau Testament qui est tellement important pour nos vies. Alors, la grande question qui se pose à nous est toute simple, mais qui donc peut bien se cacher derrière Saül? Et je me souviens d'une époque où, sans la moindre hésitation, avec une grande spontanéité, je disais, mais bien entendu, c'est Satan qui se cache derrière Saül, parce que David doit absolument être éliminé. Il faut lui faire faire une faute qui le disqualifiera à jamais. Il faut absolument briser la chaîne de la lignée élue conduisant à Christ, parce que David en est un maillon particulièrement stratégique. Un jour viendra sur cette terre, par ce mystère et ce miracle extraordinaire de l'incarnation, celui qui s'appellera Fils et Seigneur de David. Alors on comprend la rage et les efforts de la puissance des ténèbres utilisant Saül pour éliminer David. Et puis, chemin faisant, dans la croissance chrétienne, peu à peu, par le travail du Saint-Esprit, par d'autres illustrations des Écritures, mon regard a commencé à changer sur ces textes. Et j'ai appris à lire 1 Samuel 18 à 30 avec un tout nouveau regard. Lorsque j'ai compris par la grâce de Dieu que la clé de cette histoire consistait à considérer que c'est Dieu en réalité qui est à l'origine première du drame que vit notre ami David. Oh, quel bouleversement que de relire ces textes bibliques avec ce nouveau regard, et de considérer simplement que Saül est en réalité l'instrument de Dieu, non pour faire tomber David, mais pour crucifier la chair, pour former peu à peu en David ce que nous pourrions appeler l'homme spirituel. Puisque Saül ne peut plus servir librement, avec joie, pour l'accomplissement du meilleur plan de Dieu, il servira malgré tout et malgré lui à quelque chose, même dans sa déchéance progressive, comme le dit de Timothée 2, 20 et 21, s'il ne veut pas être utilisé comme un vase d'honneur, il sera utilisé par Dieu comme un vase destiné à un usage vil. Tout cela appartient dans les Écritures à la parfaite et totale souveraineté de Dieu. Dieu se sert de Saül le charnel pour combattre Saül, le Saül tapis au fond du cœur de David, parce que Nous aurons l'occasion de le redire tout à l'heure, il y a un Saül caché au fond de chacun de nos cœurs. Alors vous me dites, oui, mais vous brodez, hein? Allez donc chercher des preuves pour avancer une telle approche. Oh, les preuves sont là. Et elles sont dans le texte et elles sont dans l'histoire. Et cela commence juste au moment où le vent tourne. Oh, il a tourné dans le chapitre précédent, en fait au chapitre 15 déjà, mais au chapitre 16. Alors que Samuel vient d'être mandaté par l'Éternel pour se rendre à Bethléem, de manière à oindre ce futur roi selon le cœur de Dieu, ce roi en puissance, en quelque sorte. C'est ce qui est écrit au verset 13. Samuel prit la corne d'huile, l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit ou s'empara de David à partir de ce jour et dans la suite. Et Samuel se leva et s'en alla à Rama. Et alors là se produit quelque chose d'impressionnant, verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité, tourmenté, c'est un terme très fort, par un mauvais esprit venant de Satan. Merci. Merci. C'était volontaire, bien entendu. Et c'était destiné à réaliser, en tout cas à prendre la mesure de votre participation. Tout simplement parce qu'il m'est arrivé de dire des grosses bêtises en violentant un texte biblique simplement pour prendre la mesure de l'écoute et me répétant, demandant « êtes-vous d'accord ?» et voir une quantité de têtes opiner dans ce sens-là, n'est-ce pas ? Et devant parfois dire « mais vous êtes mûrs pour accueillir des faux docteurs chez vous. » Vous avez remarqué ce que dit le texte ? L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Le texte hébreu ne met même pas le venant. On l'a ajouté parce que c'est quand même un peu plus compréhensible dans une traduction. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Je crois à l'inspiration plénière des Écritures, je crois à l'inhérence des Écritures. L'Écriture est mon autorité suprême pour ma foi et ma conduite. Néanmoins, je suis tenté, à première lecture d'un texte comme celui-ci, de dire « Oh, mais là, manifestement, le scribe chargé d'écrire cela, de la part du rédacteur inspiré ou de copier un manuscrit devait être amoureux, et puis à ce moment-là, sa plume a dérapé. » Ça paraît tellement étrange. Et il m'est arrivé, en donnant cet enseignement, à maintes reprises, à la sortie de la réunion, de me retrouver en présence d'amis qui me disaient « moi, ça fait 30 ans que je cherchais la réponse. » C'est quelque peu énigmatique au départ, n'est-ce pas ? Alors, vous savez, quand un texte est très important, si de surcroît parfois il est extrêmement difficile à avaler, Dieu, qui est un bon pédagogue, se plaît à répéter. Vous savez, les Écritures, c'est un livre de répétition absolument extraordinaire. Dieu ne s'encombre pas de toutes nos règles grammaticales et autres, n'est-ce pas, et de style. Quand il faut dire quelque chose, Dieu le dit de X manières, de mille manières, pour que nous comprenions et que nous acceptions. Les serviteurs de Saül lui dirent « Voici un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. » Vous remarquez que tout de suite, le clou est enfoncé. Cela pourrait suffire, parce que dans la langue hébraïque, c'est déjà ce qu'on appelle un superlatif. C'est-à-dire que Dieu enfonce le clou pour dire que c'est quelque chose de très important. C'est la manière, en hébreu, de rendre des vérités fondamentales, de les placer à leur plus haut sommet. Hein. Bon, mieux, le meilleur superlatif. Ici, nous avons déjà un superlatif, mais il est encore un peu relatif, si vous voulez. Les Hébreux vont plus loin. Si c'est nécessaire, on répète trois fois. Saint, saint, saint est l'Éternel. C'est un superlatif absolu. Et ici, nous avons un superlatif absolu, puisque au verset 16, il est écrit que notre Seigneur parle, « Tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. » Vous remarquez donc que dans un espace très réduit au point de vue texte, vous avez trois fois une affirmation extrêmement forte. Et comme si cela pouvait apparaître insuffisant, Dieu s'est arrangé pour que le rédacteur inspiré l'écrive encore trois fois. Et nous avons effectivement, au chapitre 18, même à la fin du chapitre 16, au verset 23, « Lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur lui, David prenait la harpe et jouait de sa main. » Et puis, au chapitre 18 et au verset 10, « Le lendemain, le mauvais esprit venant de Dieu saisit Saül. » Et au chapitre 19 et au verset 9, « Alors le mauvais esprit venant de l'Éternel fut sur Saül. » Vous remarquez donc une insistance toute particulière dans ces textes sur cette même expression, de manière à ce qu'elle ne puisse pas échapper un seul instant à l'étourdi ou au lecteur de la Bible en TGV, hein, ce qui est très moderne. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, cela veut dire tout simplement que Satan et les esprits malins ne peuvent agir sans la permission de Dieu. Et ce mauvais esprit était autorisé directement par Dieu à s'emparer de Saül comme jugement, à s'attaquer à Saül. Et il y a ici et là, dans les Écritures, des textes qui vont exactement dans cette même direction. Vous en avez un qui a créé pas mal de troubles dans l'esprit de jeunes lecteurs des Écritures. Dans le premier livre des Chroniques, donc plus loin, au chapitre 21, 1 Chronique 21, nous avons un de ces chapitres difficiles de la royauté de David parvenue à son sommet. Il est en plein succès. Et hélas, le succès conduit souvent à l'orgueil, orgueil royal, mais aussi orgueil national. Et ce chapitre 21 de 1 Chronique commence de cette manière. « Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Hein, » retenons bien cela. « Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. » d'Israël. Alors là aussi, Dieu s'est arrangé, oh je bénis Dieu pour sa pédagogie, il s'est arrangé pour se répéter. Et nous avons donc un chapitre qui traite exactement du même événement, mais dans 2 Samuel au chapitre 24, et qui présente quelques détails, dont certains ne sont pas uniquement des détails, mais qui éclairent ce que nous voyons en ce moment. 2 Samuel, chapitre 24, donc le dernier chapitre du deuxième livre de Samuel, c'est le même événement. Toute la suite le prouve. Mais le premier verset, qui correspond au premier verset d'un Chronique 21, commence de cette manière. « La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant, « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Il n'y a pas une contradiction. Il y a une merveilleuse complémentarité entre les deux textes. Nous avons dans 2 Samuel 24 simplement celui qui est à l'origine première. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas dans un combat spirituel où on se bat à armes égales entre la puissance des ténèbres et la puissance de Dieu. Non, nous l'avons vu hier soir. La pièce, avec son pile et face de la souffrance, est dans la poche de Dieu. Nous en avons ici la démonstration. Dieu a donné une certaine marge de liberté contrôlée à la puissance des ténèbres pour accomplir sa volonté. Voilà un second texte. Nous aurions pu en prendre d'autres. Il y a d'autres passages dans 1 Roi 22, 19 à 23, mais je ne vais pas le commenter. Mais nous avons lu Job au chapitre 1er et au chapitre 2. Et nous avons remarqué, n'est-ce pas, ce qui se passe là, dans le ciel. Peut-être qu'un certain nombre d'éléments ont changé, nous ne savons pas tout ce qui s'est passé depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ dans certains domaines. Mais ce qui est absolument certain, nous allons le voir dans le Nouveau Testament, c'est que le principe demeure. C'est-à-dire que Dieu, aujourd'hui et maintenant, est parfaitement souverain. La puissance des ténèbres ne fait pas ce qu'elle veut d'une part, et d'autre part, Dieu utilise la puissance des ténèbres aussi pour accomplir ses desseins. Il contrôle. Il contrôle. Et ceci est absolument important. Le regretté Jules-Marcel Dicol, qui fut donc directeur de l'Institut biblique de Nogent, commentant le livre de Job, évoque cette question et écrit sur ce thème du début, Job 1, verset 12, « Seulement ne porte pas la main sur lui », c'est ce que l'Éternel dit à la puissance des ténèbres. Il commente en ces termes, « Le pouvoir de Satan est strictement limité par la toute-puissance divine. Il ne peut rien faire au-delà de ce que le Seigneur lui accorde la possibilité de faire. Quoi qu'en dise un de nos cantiques, Satan ne peut jamais se déchaîner vraiment. » Nous pouvons trouver déconcertant que sa chaîne soit parfois si longue, surtout dans le cas de Job, parfois dans le nôtre. Soyons pourtant rassurés, il y reste rivé, et c'est le Seigneur qui tient solidement l'autre bout. Satan n'est pas plus tout-puissant qu'il n'est omniprésent. Ne donnons pas à la puissance des ténèbres une gloire qui ne lui revient pas. Nous n'avons pas le droit de la mépriser, nous disent les Écritures, mais nous n'avons pas le droit non plus de la surestimer. Nous savons ce que nous disent les Écritures à cet égard. Ha. Nous allons vers notre conclusion. Et dans cette conclusion, nous disons tout d'abord ceci, c'est donc, avec la permission de Dieu, sous son contrôle constant, que ce mauvais esprit va se dresser par Saül contre David pour sa formation en vue du règne. Et à l'heure prévue par Dieu, Saül meurt et David monte sur le trône. Il a fallu 10 ans, à peu près, et 10 années absolument cruciales, qui étaient d'une importance capitale, vu l'importance ensuite de ces 40 ans de règne de David. Alors actualisons. Actualisons pour terminer. Dieu s'est donc servi d'un lunatique, lié par un esprit malin, impulsif, terriblement versatile, dévoré de jalousie orgueilleuse, secoués de crises de folie meurtrière. Les psys parlent des symptômes d'une psychose maniaque dépressive. J'ai lu dans un ouvrage dont je ne partage pas la totalité cette remarque. Saül, avec ses comportements bizarres, ses attitudes extrêmes, fut probablement frappé de folie dépressive. L'hallucination qu'il poursuivait lorsqu'il croyait que David complotait contre lui relève de la paranoïa, une paranoïa dépressive qui conduit au désespoir et au suicide. Il a sans doute raison. Là où il a tort, c'est de dire que, comme à cette époque, on n'avait pas fait d'études en psychologie, Dieu n'y connaissait rien. Donc, bien évidemment, ce n'était pas un mauvais esprit venant de Dieu, n'est-ce pas ? C'est pour que nous le recevions tel quel, d'autant plus que c'est corroboré, comme nous l'avons vu, par bien d'autres passages des Écritures. Ceci pour souligner que Dieu se sert d'un patron au sale caractère. 1 Pierre 2,18, nous l'avons lu hier. Dieu se sert d'un patron irascible au sale caractère pour nous former. Ayant été gravement malade à l'âge de 17 ans, avec 7 mois d'hospitalisation, je n'ai pas pu reprendre mes études pendant les 2 années qui ont suivi. Et le Seigneur avait prévu un plan merveilleux pour moi, puisque j'ai été embauché par la mairie de la ville de 10 000 habitants, frontalière avec le Luxembourg, qui était ma ville de naissance. Le maire m'a accueilli et j'ai pu avoir pendant 2 années un emploi qui a été d'une aide extraordinaire ensuite pour la suite de ma formation et le ministère que Dieu m'a confié ensuite. J'avais quand même des problèmes avec le maire et je n'étais pas le seul. C'était un maire remarquable par certains côtés, mais irascible. Et je faisais partie de cette petite équipe qui se retrouvait dans son bureau chaque samedi pour faire le bilan de la semaine écoulée et préparer la semaine suivante. Et mes amis, les quelques-uns que nous étions à faire partie de cette équipe, généralement, le vendredi, nous avions des coliques. Parce que nous savions que si monsieur le maire avait quelque chose à nous dire sur notre manière d'avoir traité tel ou tel sujet, il ne manquerait pas de le faire avec pertes et fracas. J'étais disciple de Jésus-Christ. Et Dieu s'est servi de monsieur le maire pour m'apprendre de cette manière un certain nombre de choses, même si ça me restait parfois sérieusement en travers du gosier. Surtout quand on a 17, 18, hein, 19 ans. Bref. Dieu se sert d'un voisin de chambre impossible. Dieu se sert d'un croyant rétrograde et charnel. Dieu se sert de frères et sœurs difficiles à vivre dans l'église locale. Dieu se sert, et je le dis en essayant en tout cas de prendre la mesure de ce que je suis en train de vous dire, Dieu se sert d'un conjoint non converti à Jésus-Christ pour former celui ou celle qui est à ses côtés et qui connaît le Seigneur. Oh, je ne le dis pas avec légèreté, mais avec un profond respect pour la souffrance que représente souvent le fait d'être seul à Jésus-Christ dans un foyer parfois tellement hostile. Lorsque j'étais pasteur en Bretagne, dans l'église de Paimpol, dans les côtes du nord de l'époque, nous avions une dizaine de couples qui étaient désunis au niveau de la foi. Et nous avons été, mon épouse et moi, tant et tant de fois, où les témoins, dans la confidence de ceux ou celles qui souffraient Et nous avons parfois essayé d'être les pompiers pour éteindre le feu quand les flammes allaient trop loin. Donc nous avons pu prendre quelque peu la mesure de ce que cela signifiait. Mais néanmoins, il en est ainsi. Dieu se sert aussi de ceux qui, dans notre proximité immédiate, ne veulent pas du Seigneur Jésus pour nous former. Oh, vous savez, je vais être sobre, mais vous le dire quand même. Nous sommes parents de 4 enfants. Myriam, qui va sur ses 34 ans, Sylviane, qui va sur ses 30 ans, Jean-Siane, 29 ans, et notre garçon Emmanuel, qui se marie le 3 juin, 25 ans. Nous bénissons Dieu de tout notre cœur, de ce que nos 3 derniers vraiment marchent avec le Christ vivant et sont engagés. Sylviane et son mari Fabrice sont à plein temps dans l'œuvre de Dieu à Bruxelles, nous en venons d'ailleurs, au service de Dieu dans la librairie évangélique francophone de Bruxelles. Mais depuis, plus de 15 ans, Dieu continue à nous former en utilisant notre aînée. Tout simplement parce qu'elle a fait ses choix personnels. Nous ne sommes pas en guerre avec elle. Apparemment, elle ne l'est pas avec nous. Elle peut rentrer à tout instant à la maison parce que Dieu nous a appris à l'aimer d'un amour inconditionnel. Et ça n'a pas été facile. Je n'entre pas dans les détails. Nous ne savons pas actuellement où elle est. Elle est en région parisienne. Nous avons perdu sa trace. Nous ne l'avons plus revue depuis août 2002. Il y a 2 ans, nous avons eu un coup de téléphone après mon problème de tumeur et tout ce qui s'en est suivi quelques semaines plus tard. Mais Dieu se sert de notre Myriam. Il n'est pas de jour où nous ne prions pas pour elle. Et c'est vrai que c'est parfois difficile, à certaines périodes pendant l'année. Mais néanmoins, nous ne voulons pas voir la puissance des ténèbres derrière elle. Nous ne voulons pas laisser l'avantage à la puissance des ténèbres pour que la puissance des ténèbres puisse nous accabler. Parce que les Écritures nous crient le message que nous partageons avec vous. Dans ce domaine précis, il y en a tant d'autres dont nous pourrions vous parler. Nous aurions pu prendre tant d'autres exemples. Mais j'aimerais dire simplement ceci, c'est que là où nous ne voyons que Satan, des situations difficiles à fuir coûte que coûte, n'y aurait-il pas la main de Dieu à l'œuvre? Bien entendu, je ne veux pas dire que nous devions courir après ces situations. Il est des chrétiens soi-disant héroïques dans leur désir d'être sanctifiés qui s'exposent inutilement. Le Seigneur Jésus, ici-bas, ne s'est jamais exposé inutilement. Tant que l'heure n'était pas venue pour qu'il entre à Gethsémané et meure sur la croix, il a fui lorsqu'on a tenté de le lapider. Il s'est écarté, n'est-ce pas? Donc pas d'héroïsme malsain. Mais nous confrontons tous, vous et moi, de ces situations où nous sommes tentés de voir la puissance des ténèbres sans nous souvenir que Dieu organise nos circonstances. S'il nous faut fuir le péché, résister au diable, Il nous faut accepter dans un sens positif. Je ne parle pas de la soumission fataliste de l'islam devant la souffrance, n'est-ce pas ? Il nous faut accueillir nos situations d'épreuves, les accueillir. Notre problème, c'est que trop souvent, parce que nous ne voyons que le côté du venin, l'aspect négatif, le côté du diable, nous vivons en inimitié permanente, nous nous battons contre des situations qui nous usent, au lieu de coopérer avec l'inévitable, en voyant le profil de Dieu se dessiner derrière chacune de ces situations. Nous aurions pu évoquer Jacob pendant 20 ans. Nous aurions pu évoquer Joseph pendant une douzaine d'années lui aussi. Nous aurions pu évoquer Paul, permettez quand même, peut-être pour avoir un exemple du Nouveau Testament, sur lequel nous filons bien vite généralement, 2 Corinthiens chapitre 12, ce témoignage tellement sobre, avec tant de précautions, mes amis, que d'enseignements sur la manière dont Paul sait parler des choses saintes qui le concernent, de manière à ne pas en tirer gloire et à ne pas s'avancer dans des inventions et faits de l'imagination. Il est d'une grande prudence. Et puis il arrive à ce verset 7 de 2 Corinthiens 12, « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis, littéralement, il m'a été donné une écharde dans la chair, un ange de Dieu pour me... Pardon ? Ah. Un ange de Satan. Nous sommes dans la nouvelle alliance, mes amis. Christ est glorifié. Et pourtant, ce n'est pas non plus une erreur d'un scribe quelconque, n'est-ce pas ? Un ange de Satan pour me souffleter, ça ne veut pas dire, comme je l'ai lu dans certains ouvrages hautement évangéliques, mais centrés sur la puissance des ténèbres, que l'apôtre Paul était subitement possédé par un démon. Parce que je l'ai lu, mes amis. Non, mais l'ennemi attaque. Et Dieu, en l'occurrence, s'est servi, n'est-ce pas ? De ces situations de harcèlement, en quelque sorte, de la puissance des ténèbres, qu'il contrôlait parfaitement. Ici, une écharde dans la chair, on ne sait pas, peut-être, sans doute, des problèmes de santé. Un ange de Satan pour me souffleter, m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Trois fois. Là, c'est encore un superlatif. Ce texte veut dire que l'apôtre Paul est allé au bout de ses possibilités humaines dans sa vie de prière. Et puis Dieu a dit stop, ça suffit. N'insiste pas, comme il a dit ailleurs à Moïse, n'insiste pas, je ne reviendrai pas. J'ai un plan. Je suis saint, je ne suis pas une girouette, n'est-ce pas ? Ici il m'a dit, ah, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans la persécution, dans les détresses pour Christ. Vous rendez compte ? Il dit « je me plais ». Je me plais. Oh, il n'a pas dit ça au début de son ministère. Il a appris. Parce que le disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui apprend. Le disciple, c'est un apprenti. Je suis un apprenti et jusqu'au bout de ma vie, je resterai un apprenti, en particulier dans le domaine de la souffrance. Mais pour que mon regard, peu à peu, évolue, change, et qu'au lieu de rester obnubilé, hypnotisé, le regard sur la puissance des ténèbres, mon regard soit orienté ailleurs. Et ça, c'est le secret de Lamentations chapitre 3. Il est arrivé un moment où manifestement Jérémie a cessé de regarder dans une certaine direction. Et comme nous l'avons dit hier, il s'est rattaché au caractère de Dieu. Voyez ? Nous l'avons dit hier, nous l'avons souligné fortement. Je ne l'avais pas prévu. Mais Dieu le mettait fortement ce message hier soir. L'importance de découvrir la personne de Dieu, son caractère, sa stratégie, ses pensées, sa pédagogie. Pour qu'il remplisse nos cœurs, de manière à ce que nos regards soient beaucoup plus impressionnés, imprégnés, imbibés de la personne du Dieu qui ne change pas. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, quand nous commençons à dérailler et que Dieu le supporte, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, il arrive un moment où, en prenant un peu de recul, ou en nous arrêtant, et combien de fois cela m'est arrivé, vous le voyez dans les psaumes, subitement je me dis, mais non, Maurice, tu sais bien que Dieu n'est pas comme ça. Tu as découvert le caractère de Dieu, n'est-ce pas ? La vision du caractère de Dieu et de sa pédagogie. Je ferme ma Bible, et en fermant ma Bible, je vous laisse ce texte que j'ai lu tellement souvent et qui m'a tant encouragé. Mon enfant, j'ai un message pour toi aujourd'hui. Laisse-moi te le murmurer à l'oreille, pour qu'il puisse auréoler de gloire tout nuage de tempête venant à s'élever et à planir les lieux rocailleux où tu devras peut-être marcher. Il est court, 5 mots seulement. Mais laisse-le s'enfoncer au tréfond de ton âme. Utilise-le comme un oreiller où reposer ta tête lasse. Cette chose vient de moi. As-tu déjà pensé à ceci ? Tout ce qui te concerne me concerne aussi. Car celui qui te touche, touche la prunelle de mon œil. Tu as du prix à mes yeux. C'est pourquoi je prends un plaisir spécial à te former. Je voudrais que tu apprennes, quand les tentations t'assaillent et que l'ennemi vient comme un fleuve, que cette chose vient de moi. Que ta faiblesse a besoin de ma force et que ta sécurité consiste à me laisser combattre pour toi. Te trouves-tu dans des circonstances difficiles, entouré de gens qui ne te comprennent pas, qui ne s'enquièrent jamais de tes goûts, qui te mettent à l'arrière-plan? Cette chose vient de moi. Je suis le Dieu des circonstances. Tu n'es pas arrivé là par accident. C'est là même que Dieu voulait te voir. N'as-tu pas demandé à devenir humble? Alors vois, je t'ai placé à l'école où cette leçon est enseignée. Ton entourage et tes compagnons ne font qu'accomplir ma volonté. As-tu des problèmes d'argent? T'est-il difficile de joindre les deux bouts? Cette chose vient de moi, car je suis celui qui tient les cordons de ta bourse, et je voudrais te voir puiser en moi et dépendre de moi. Ma richesse est sans limite. Je voudrais que tu mettes à l'épreuve mes promesses, qu'il ne soit pas dit de toi, dans cette circonstance, tu n'as pas eu confiance en l'Éternel, ton Dieu. Traverses-tu une nuit de chagrin? Cette chose vient de moi. Je suis l'homme de douleur et habitué à la souffrance. J'ai permis que les réconforts terrestres te fassent défaut pour qu'en te tournant vers moi, tu puisses obtenir une consolation éternelle. Désires-tu accomplir une grande œuvre pour moi, au lieu de quoi tu t'es trouvé cloué à un lit de souffrance et de faiblesse? Cette chose vient de moi. Je ne pouvais attirer ton attention quand tu étais tellement occupé, et je veux t'apprendre quelques-unes de mes leçons les plus profondes. Ils me servent aussi ceux qui attendent patiemment. Certains de mes plus grands ouvriers sont ceux qui sont exclus du service actif pour apprendre à manier l'arme de la prière. En ce jour, je place dans ta main ce pot d'huile sainte. Fais-en librement usage, mon enfant. Que toute circonstance survenant, tout mot qui te blesse, toute interruption qui te rendrait impatient, toute révélation de ta faiblesse en soit oint. La douleur passera à mesure que tu apprendras à me voir en toutes choses. Seigneur, simplement, merci pour ce message de ta parole qui est tellement révolutionnaire pour toutes ces situations que nous ne comprenons pas. Nous t'en bénissons et nous t'adorons. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà, chers amis, nous avons nos Bibles pour les ouvrir dans le livre des Nombres. Livre des Nombres, au chapitre 33. Livre des Nombres, chapitre 33. Ce n'est pas un chapitre passionnant à parcourir, mais vous le verrez, il devient très précieux quand on le considère à la lumière de ce que nous allons partager cet après-midi. Je lis donc à partir du verset 1er et jusqu'au verset 15. Voici les stations des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte selon leur corps d'armée, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse écrivit leur marche de station en station, d'après l'ordre de l'Éternel, et voici leur station selon leur marche. Ils partirent de Ramsès le premier mois, le 15e jour du premier mois, le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent la main levée à la vue de tous les Égyptiens. Et les Égyptiens enterraient ceux que l'Éternel avait frappés parmi eux, tous les premiers-nés. L'Éternel exerçait aussi des jugements contre leur Dieu. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès et campèrent à Succoth. Ils partirent de Succoth et campèrent à Étham, qui est à l'extrémité du désert. Ils partirent d'Étham, se détournèrent vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon, et campèrent devant Migdol. Ils partirent de devant Pi-Hahiroth et passèrent au milieu de la mer dans la direction du désert. Ils firent 3 journées de marche dans le désert d'Étham et campèrent à Mara. Ils partirent de Mara et arrivèrent à Élim. Il y avait à Élim 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ce fut là qu'ils campèrent. Ils partirent d'Élim et campèrent près de la mer Rouge. Ils partirent de la mer Rouge et campèrent dans le désert de Sin. Oh, le désert de Sin, mes amis, ça c'est un désert terrible. Environ 160 kilomètres au sud de la mer Morte, la température peut y monter jusqu'à 50 degrés. On l'appelle le désert terrible. Il est situé à 350 mètres sous le niveau de la mer, ce qui explique aussi bien des choses concernant son climat. Et donc, ils campent dans le désert de Sin. Verset 12, ils partirent du désert de Sin et campèrent à Dovka. Ils partirent de Dovka et campèrent à Alush. Ils partirent d'Alush et campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Ils partirent de Rephidim et campèrent dans le désert du Sinaï. Nous allons maintenant, simplement pour une deuxième lecture d'introduction, dans le livre de l'Exode, au chapitre 13, qui va reprendre en particulier un élément de cet itinéraire. Exode 13, la fin d'Exode chapitre 13, versets 17 à 22. Exode 13, versets 17 à 22. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple de Dieu, qui est le peuple de Dieu d'ailleurs, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes, tout équipés, en bon ordre, hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. » Ils partirent de Succoth et campèrent à Étham à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Les chemin incompréhensible de Dieu. Les chemins incompréhensibles de Dieu. Et c'est vrai que sur notre itinéraire à chacun, il y a en tout cas des portions de chemin particulièrement sinueuses. Il y a des voies incompréhensibles. Et pour nous aider dans notre cheminement sur ces voies incompréhensibles, Dieu nous a donné, une fois de plus, dans l'Ancien Testament, ce récit tellement vivant des pérégrinations d'Israël au désert, parce que ce récit est d'une richesse pédagogique remarquable. Dieu savait qu'en 2006, nous aurions besoin de tels récits pour notre propre marche avec Dieu. Et j'ose le redire, cette négligence que nous avons à l'endroit d'une partie importante des Écritures nous coûte cher. Je ne compte pas le nombre de fois où c'est précisément l'Ancien Testament qui m'a aidé à comprendre certaines vérités profondes et certaines vérités très pratiques pour ma vie quotidienne dans la Nouvelle Alliance. Pourquoi ? Parce que c'est le même Dieu, c'est sa pensée qui s'exprime tout au long de ces quelques 16 siècles au fil desquels sa parole s'est constituée, sa parole écrite s'est constituée peu à peu pour être transmise ensuite de génération en génération. Nous sommes avec Exode 13 dans ce que j'appellerai l'éducation d'Israël durant sa première année au désert. Nous ne l'avons pas fortement souligné dans l'étude de ce matin, parce qu'il y aurait eu beaucoup d'autres choses à dire, mais il fallait sélectionner. Bien entendu, lorsque David est confronté à l'implacable jalousie, et c'est peu dire, du roi Saül, la plupart des événements qu'il va connaître durant cette dizaine d'années se passent aussi dans le désert. Et il y a de nombreux enseignements à tirer précisément de la vie dans le désert. Nous avons nos déserts à traverser. Et nous pouvons traverser nos déserts beaucoup mieux lorsque nous nous référons au désert et à ce qui s'est passé dans ces déserts pour le peuple de Dieu lorsqu'il y tournait. Et il faut que nous nous souvenions dans Exode 13, 17 et suivant que le peuple d'Israël, ces 2 à 3 millions de personnes, semble-t-il, qui se sont ébranlés dans cette nuit de la Pâque, où celui qui préfigurait l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde a été immolé dans chaque foyer, ces Israélites sont dans un état d'euphorie, d'enthousiasme, de bonheur, comme on peut l'être quand on échappe à des temps terribles d'esclavage. dans des circonstances aussi très particulières, puisque vous savez que lorsque Moïse pointe son nez sur l'ordre de Dieu, rentrant lui de son désert, qui a duré des dizaines d'années, une quarantaine d'années, vous vous rendez compte hein, comment Dieu forme ses serviteurs, hein, et quand il se pointe là, à la cour de Pharaon, ça commence tout d'abord par aller beaucoup plus mal pour le peuple d'Israël. Au point que Moïse pouvait très bien se poser la question, mais est-ce que je ne me suis pas trompé en m'engageant de cette manière depuis l'Égypte, depuis le désert jusqu'à l'Égypte, par obéissance, oh, disons-le d'abord bien à contre-cœur, à l'ordre de Dieu, puisqu'il y a eu une plaidoirie implacable où Moïse a essayé d'avancer tous les arguments possibles et imaginables pour ne pas obéir, n'est-ce pas? Et les voilà qui sont hors d'Égypte, il y a eu les 10 plaies, ça a été aussi un temps très particulier parce que ces Juifs se sont rendus compte de la sollicitude de Dieu à leur égard, puisque un certain nombre de ces plaies les ont épargnées, ne touchant que le peuple égyptien, ou même les incrédules, parce qu'il y avait des Égyptiens, pour certaines d'entre elles, qui ont tenu compte des plaies. Et Dieu travaillait en même temps. Il ne faut pas voir seulement le côté de jugement qui tombe, mais aussi d'une grâce qui travaille dans le cœur d'une population, dont certains éléments vont certainement se tourner vers ce Dieu-là et vont échapper, nous disent les textes, à la sévérité de certaines de ces plaies. Les voilà qui sortent, qui sont heureux. Ça fait plus de 4 siècles qu'ils attendent l'accomplissement de la première promesse faite à Abraham. Lorsque Dieu a traité une alliance, comme on le faisait à l'époque, avec Abraham, par le sacrifice d'animaux qui étaient tranchés dans le sens de la longueur et entre lesquels les pactisants, les contractants passaient, il y avait là toute une cérémonie, Dieu est passé. Dieu a pris des engagements et Dieu a dit à ce moment-là à Abraham que en fait 4 siècles allaient s'écouler jusqu'à ce que enfin la promesse puisse totalement se réaliser et que le pays promis soit vraiment la terre propre au peuple d'Israël. 4 siècles. Alors maintenant, dans le désert, eh bien, ils sont à quelques semaines. C'est un peuple de 2 à 3 millions de personnes. Ils partent avec le déménagement. Hein. C'est pas rien que cette histoire. Donc, ils calculent. Et moi, je les imagine. Je crois que dans ces moments-là, en prenant des précautions, nous sommes en droit de nous mettre dans leur peau et de nous dire, mais comment est-ce qu'ils ont pu réagir? Ou comment aurions-nous réagi si nous avions été à leur place? Et je peux imaginer les conversations dans cette longue caravane où un tel disait à son épouse, dit, est-ce que tu as pensé au genre de tapisserie que nous allions mettre dans la salle à manger? Et puis après tout, combien de pièces aura notre maison? Bien sûr que j'actualise, hein, mais vous comprenez? Tout ce qui pouvait se passer dans l'esprit de ce peuple d'Israël qui se disait enfin, enfin, après tant et tant de temps, nous allons voir la promesse se réaliser et nous serons même les artisans directs de la réalisation de cette promesse. Il y en a tant d'autres qui nous ont précédés, qui auraient voulu être à notre place. Et voilà qu'il nous incombe à nous d'être les artisans de cette réalisation, de pénétrer dans cette terre pour la posséder, comme le dit si souvent le livre du Deutéronome. Et puis ça a commencé à aller de travers. Ça a commencé à aller de travers parce que il y avait là, au sein du peuple, certainement, les futurs chefs des syndicats d'Israël au désert, parce que vous savez qu'il y a aussi des non-juifs égyptiens et autres qui ont emprunté le même itinéraire. La Bible parle d'eux en termes de ramassis. Au chapitre 12, verset 37, les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes, de pied sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux, tout un ramassis ou un mélange nombreux. Et plus tard, c'est ce ramassis qui va poser des problèmes. C'était ce qu'on appelait les opportunistes. Ceux qui se disaient, manifestement, les dieux égyptiens n'ont plus la cote. C'est le dieu d'Israël qui est le grand dieu, le dieu tout-puissant. On va emboîter le pas au peuple de ce dieu-là pour bénéficier au maximum des retombées positives pour ceux qui suivent ce dieu-là. Et plus tard, le livre des Nombres le dit, ils ont, nombre 11 je crois même, ils ont parfois provoqué des murmures contre l'Éternel lorsque ce Dieu n'était plus un Dieu satisfaisant. Ça ne les avantageait plus apparemment de suivre ce Dieu. Alors ils ont fomenté la révolte. Et Dieu a dû intervenir. Alors je les imagine déjà là même qui se présentent auprès de Moïse et qui lui disent « Moïse, est-ce que tu as déplié la carte Michelin ?» Qu'est-ce qui se passe ? Nous avons regardé de très près l'itinéraire pour arriver dans le pays où coule le lait et le miel, et tu es en train de nous emmener pratiquement à l'opposé. Alors qu'est-ce que tu as, Moïse ? Est-ce que tu es malade ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu as pris un coup de chaleur ? Et je peux imaginer Moïse leur disant, écoutez, je connais votre géographie, j'ai toute la collection des cartes Michelin dans ma tente. Mais il se trouve que, en tant que conducteur du peuple de Dieu, ce n'est pas vers la carte que je me tourne. Je ne regarde pas en bas, mais je regarde en haut. Et quand je regarde dans le ciel, j'ai la carte Michelin de Dieu. Et la carte Michelin de Dieu, elle ne colle pas, en l'occurrence, avec la carte Michelin des hommes. Vous voyez là-haut, la nuée ? C'est elle que nous devons suivre. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas utiliser les services d'hommes qui connaissent la région. C'est ce que Moïse va faire. Il va utiliser les conseils de son beau-père Jéthro. Il va lui demander de venir pour que dans cette ligne générale de la Shekinah, de la gloire de Dieu, de la nuée, le beau-père qui connaît la région puisse donner des indications d'ordre pratique sur le chemin. Et je trouve ça absolument équilibré dans les Écritures. Notre spiritualité doit être équilibrée. Dieu nous donne des indications précises de direction par le Saint-Esprit au moyen des Écritures, mais ça ne veut pas dire que nous devions nous passer du conseil de ceux qui marchent avec Dieu. En l'occurrence, il y avait une orientation par la Shekinah, et puis il y avait une aide d'ordre pratique par quelqu'un qui craignait Dieu et qui connaissait le pays. Voyez l'équilibre des Écritures. Mais, quand nous lisons Exode 13, 17 à 22, nous avons un problème, nous, une fois de plus. C'est que nous avons les raisons, ou un certain nombre des raisons de Dieu de procéder comme il a procédé. Et il faut, une fois de plus, absolument que nous nous mettions dans la peau du peuple d'Israël pour faire comme si nous n'avions pas les réponses dans le texte. Vous comprenez? Ça, c'est absolument fondamental. Il n'avait pas les réponses. Et ils ont ainsi été placés devant un détour incompréhensible. Quelque chose d'absolument énigmatique et qui, pour eux, semblait intervenir au plus mauvais moment qui soit. N'est-ce pas? Après tant de siècles, fallait-il que subitement, quand la terre promise était à portée de main, n'est-ce pas, Dieu décide de les faire partir dans la direction opposée. Nous avons de la peine, nous, à prendre la mesure de ce que signifiait toute cette épreuve pour le peuple d'Israël. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte, mais, ah là là, les mais énigmatiques de Dieu, mais, un tout petit mot, mais dans nos vies, hein, mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Vous aimez les détours? Ah, mes amis, les détours. Nous en avons fait un hier matin. Je vous assure que hier matin, en quittant l'Alsace par le col du Bonhomme, à un moment donné, j'ai pensé comme jamais à l'étude de cet après-midi. Parce que subitement, nous nous sommes trouvés en face d'une pancarte qui interdisait tout itinéraire direct. Et nous avons trouvé, et c'est toujours comme ça, que c'était un long détour. Parce que, précisément, il commençait par nous faire partir dans la direction opposée. Et on a fait un immense arc de cercle, là, n'est-ce pas, dans la nature, sous la pluie, sur les hauteurs. Et je me dis, ah oui, ben, c'est bien parce que ça tombe à merveille, puisque demain après-midi, on va parler de détours. Tenez-vous bien, il y a 2 semaines, j'avais un programme d'enseignement dans une église de la ville de Mons, donc un peu au-delà de Valenciennes, lorsqu'on va soit vers Bruxelles, soit vers Liège. Et le dimanche matin, j'avais un programme un peu spécial hors de cette église de Mons, dans laquelle je terminais une série d'études l'après-midi. J'avais un programme spécial à une quinzaine de kilomètres de là, dans une autre église que j'ai eu l'occasion de visiter à diverses reprises dans le passé. Le responsable de cette église, de la ville en question, à 15 kilomètres de Mons, venait me chercher. Nous chercher, puisque mon épouse était à mes côtés. Et voyez-vous, nous avons été confrontés avec un énorme détour. Et l'énorme détour était lié au départ du Giro, le Tour d'Italie, puisque cette année, le Tour d'Italie a eu la bonne idée de démarrer à Mons, le dimanche où j'avais ce programme d'enseignement. Alors le pasteur qui est venu me chercher était un peu embarrassé parce qu'il avait dû tourner lui aussi, il n'avait pas du tout réalisé tout ce que ça poserait comme problème, il y avait de la police partout. Et même en revenant vers Mons, nous avons encore dû emprunter un autre itinéraire. Eh bien voyez-vous, il se trouve que pour certaines raisons, en pensant à juste ce culte que j'avais dans cette église locale qui a perdu je ne sais pas combien de dizaines de membres il y a relativement peu de temps dans une terrible épreuve qui a divisé l'église et créé une hémorragie en profondeur, Dieu m'avait mis à cœur de parler des chemins inexplicables de Dieu.